Vous écoutez Séquence Parc sur la fréquence 107 et sur www.radiobartas.net. Séquence Parc, c'est l'émission du Parc National des Cévennes, un nouveau rendez-vous chaque mois pour vous parler de l'actualité du Parc National. Cette émission est diffusée une semaine le mardi à 10h, la semaine suivante le jeudi à 13h. Amis auditeurs de Radio Partas, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission Séquence Parc, consacrée aujourd'hui aux pollinisateurs et à un projet dont on va parler avec mes invités. Mes invités aujourd'hui qui sont donc Muriel Pascal, apicultrice sur la commune des Bondons. Bonjour Muriel.
Bonjour.
Je suis aussi entourée de Jocelyn Vanderflick, collègue du parc chargé de mission faune.
Bonjour.
Et de Tiphaine Pédron, chargée de projet pollinisateur. Voilà, donc c'était.
Bonjour.
On va savoir ce qu'il en est dans quelques instants. Donc, on l'a dit, la thématique des pollinisateurs. Alors, tout simplement, pourquoi s'intéresser à ce thème des pollinisateurs ? Muriel, peut-être, tu peux nous en dire deux mots.
Alors oui, à l'origine, on va dire que c'est la commission agricole du parc et les apiculteurs de la commission agricole qui siègent donc au PNC, qui ont formulé une demande de travailler sur la problématique de l'abeille au sens large. Et pour nous, apiculteurs, on parlait abeille domestique, ça nous semblait assez naturel. Et d'essayer de travailler en concertation avec le parc national des Cévennes pour faire un... on va dire un travail sur les emplacements, parce qu'en fait, on a une problématique de ressources mellifères, nous, apiculteurs, et la problématique des emplacements est très, très importante dans notre métier. Donc, c'était aussi de favoriser l'accès à des emplacements pour les apiculteurs qui sont déjà installés et aussi pour ceux qui sont en train de s'installer, pour qui c'est plus difficile de trouver. Donc voilà, au départ, c'est cette problématique qui nous intéressait. Ensuite, je pense qu'on a élargi sur la problématique pollinisateur au sens large, puisqu'il y a une problématique qu'on peut aborder communément.
Oui, ça n'a pas échappé à la plupart des personnes qu'il y a une diminution des insectes pollinisateurs. Et donc le ministère de l'Environnement s'est doté d'un plan. Un plan national d'action, qui est un document qui oriente les actions à mener pour préserver ces pollinisateurs sur la période 2015-2020. Et donc, cette proposition de travailler sur l'apiculture est venue avec un complément de travailler d'une façon générale sur les pollinisateurs à l'échelle du territoire du parc.
D'accord. Alors cette problématique de baisse des effectifs, évidemment, elle ne concerne pas que le territoire du parc national des Cévennes. C'est évident, mais bon, ça, voilà, je pense que...
Eh bien, à vrai dire, même sur le territoire du parc, on n'en sait rien. Mais ce que l'on sait, c'est qu'à l'échelle mondiale, il y a quelques études qui montrent qu'il y a une diminution globale des pollinisateurs, notamment dans des secteurs très touchés par des changements importants sur les activités agricoles, donc dans les zones de plaine. Dans les zones de montagne, on n'a pas suffisamment de recul pour savoir ce qu'il en est, même si on peut supposer qu'il y a aussi un déclin, mais un déclin qui est sûrement moins marqué que dans les zones de plaine.
D'accord. Un déclin que les apiculteurs du territoire ressentent
Tout à fait. En fait, peut-être qu'on est dans un territoire qui est certainement plus préservé que d'autres, puisqu'il y a quand même moins de pertes de biodiversité, moins d'agriculture intensive sur ce territoire. Mais on est quand même, nous, confrontés, professionnels, à des problématiques de maintien en vie de notre cheptel, de nos abeilles. Donc forcément, si nous avons des problèmes, les pollinisateurs sauvages en ont également. C'est aussi simple que ça.
D'accord.
Oui, autant c'est vrai qu'on a peu de recul sur les pollinisateurs, hein, sur la réduction des effectifs, à part quelques études bien spécifiques à l'échelle européenne, voire ailleurs. Autant on sait que le nombre d'apiculteurs, le nombre de ruches au niveau national, au niveau européen et à l'échelle mondiale diminue fortement. Donc on peut supposer que les causes sont les mêmes, notamment tout ce qui est pesticides et agriculture intensive.
D'accord. Et donc cette problématique de la ressource mellifère est au cœur, enfin est une piste essentielle
Aujourd'hui, en termes techniques, nous avons des défis à relever, mais on sait que ça ne permettra pas de résoudre tous nos problèmes, mais il faut quand même faire feu de tout bois. On doit assurer, on va dire, notre revenu, hein. Je veux dire, on est aussi assez terre à terre, on doit assurer notre production. Donc c'est par des aspects, des leviers techniques qu'on essaye de pallier à des problématiques très vastes, comme les changements climatiques, comme la problématique des pesticides. Mais voilà, les emplacements sont un des leviers qu'on peut encore activer, nous, en tant que professionnels. Donc être répartis sur le territoire de manière harmonieuse, c'est aussi quelque chose d'important pour nous en apiculture, parce que si on trouve tout simplement des ruchers avec une proximité trop importante, nos abeilles vont se faire la compétition entre elles, entre apiculteurs, hein. Donc c'est intéressant dans ce travail-là d'avoir un regard scientifique, déjà pour savoir si nous on se fait concurrence, parce qu'on a une idée de ça, mais on n'a pas de certitude. Est-ce que nous, les chercheurs, les scientifiques qui vont travailler là-dessus vont pouvoir nous dire si nos abeilles sont en compétition les unes avec les autres, à quelle distance, avec la ressource présente, quel type de ressource. Voilà, tout ça c'est important de le poser. Et alors, si on arrive à concilier les intérêts de nos abeilles domestiques et des pollinisateurs, eh bien là, c'est encore mieux. Voilà, l'idée, c'est d'arriver à trouver une problématique commune. Et je trouve que si on arrive à résoudre des problèmes qu'on a, nous, en tant que professionnels, et en plus à favoriser les pollinisateurs sauvages, c'est bénéfique pour tout le monde.
D'accord. Ce plan national d'action auquel tu fais référence, Jocelyn, tu as dit 2020, mais il y a tout à parier que ça va reconduit.
On a l'assurance et il y a déjà des personnes qui travaillent dessus, qui sera prolongé. Hein, les plans nationaux d'action sont là pour, tant que les espèces se portent mal, en tous les cas, il y a du travail dans le cadre de ces plans nationaux d'action. Et donc, comme les pollinisateurs ne se portent pas très très bien, on a la certitude que ce plan sera reconduit. Donc, des actions sur les pollinisateurs, on commence, mais on va en entendre parler encore pendant quelques années, oui.
Je crois. Alors, ce projet pollinisateur, donc là je me tourne vers Tiffaine, ce projet pollinisateur qui démarre, qui a démarré il y a quelques semaines, quelques mois, on peut dire qu'il s'inscrit dans ce plan national d'action.
Oui, ça. Enfin, nous, ça s'inscrit. C'est plus un objectif qui a été mentionné dans la charte du parc, mais effectivement, c'est en cohérence totale avec le plan national d'action.
D'accord. Alors, ce projet, je crois qu'il, ça serait bien qu'on en sache un petit peu plus. Hein, donc, il correspond à quoi exactement ?
C'est un projet on aimerait que ça dure 3 ans à peu près. C'est comme ça qu'on l'a calibré pour l'instant. Et donc il y a plusieurs briques de projets qui l'un va pas vraiment sans l'autre, quoi. Ça s'alimente. Tout d'abord, un des objectifs principaux, on en parlait tout à l'heure, là, c'est travailler sur la ressource qui est disponible, donc ressource nectarifère et pollinifère. Donc essayer d'augmenter la ressource disponible sur le territoire et la diversité de cette ressource pour que y ait des fleurs présentes à différentes périodes de l'année. Parce que c'est une problématique qu'on a perçue sur le territoire. Ensuite, c'est connaître plus les pollinisateurs qui sont présents et quels sont les enjeux vraiment liés à leur préservation.
Oui, il y a un volet connaissance qui est important dans ce projet. Jocelyn, tu...
Oui, on a. Alors, dans les actions qui sont déjà réalisées, on a commandé une étude auprès d'une personne qui est spécialisée sur ces abeilles sauvages. Alors, je donne déjà un peu un ordre d'idée. Hein. Les abeilles sauvages en France, c'est à peu près 1000 espèces. C'est un tout petit peu moins de 1000 espèces et 963 espèces. Enfin bon, avec toute la part d'inconnus en tous les cas, parce qu'il y a sûrement des espèces cryptiques, c'est-à-dire là où on voit qu'une espèce, il y en a peut-être deux, ça serait pas étonnant. Donc cette connaissance, on a besoin de l'avoir sur le territoire du parc. Et il faut savoir qu'à l'échelle nationale, on n'a aucune personne qui est capable d'identifier l'ensemble des 1000 espèces qui sont présentes en France. Donc il y a besoin d'avoir affaire à des spécialistes qui se répartissent sur des groupes biologiques au niveau européen. Et donc le premier travail qu'on a réalisé, c'est d'avoir un état des lieux, puisqu'il y a eu des inventaires historiques sur le territoire du parc, mais comme partout ailleurs, et avec des premiers inventaires sur les abeilles. La première donnée sur le territoire du parc, j'ai vérifié avant de venir, date de 1899.
Wow.
Avec beaucoup de données qui concernent la période 1960-1970 et pratiquement plus de données depuis le début des années 2000. Donc notre premier travail, c'était déjà de récupérer toutes ces données historiques pour voir combien d'espèces on avait sur le territoire du parc. Et actuellement, sans avoir fait d'inventaire spécifique, on est à 262 espèces. Et on peut vraisemblablement espérer avoir autour de 400 espèces. Oui, je donne un chiffre, je m'avance un peu, mais autour de 400 espèces, en tout cas, sur le territoire, sur les 960 présentes sur le territoire national. Donc à peu près de la moitié des espèces françaises.
D'accord.
Alors, on a lancé cette étude, donc 262 espèces connues, plus des inventaires qui sont en cours. Alors, on a de la collecte qui a été faite cet été, et puis on va continuer dans les années à venir à faire des démarches d'inventaire. Et chaque individu est collecté, et puis on le donne à des spécialistes au niveau européen qui sont à même de pouvoir nous identifier ces espèces-là.
D'accord. Donc, juste pour que tout le monde, y compris et surtout les béotiens, soient bien au clair, on a plus de 960 espèces d'abeilles sauvages pour ce qu'on appelle l'abeille domestique, c'est une espèce d'abeilles domestiques, c'est ça ? Il n'y en a pas plusieurs ?
Et non.
Non,
avec
d'accord.
Des sous-espèces, mais
d'accord,
voilà.
Ok.
Donc, c'est l'abeille avec laquelle on travaille, on va dire.
D'accord. Donc elle est peut-être d'autant plus fragile qu'elle est seule, cette espèce ?
Oh, non, je pense qu'il y a quand même eu beaucoup de brassage génétique. Après, là, on va rentrer dans des détails assez techniques. Je pense que ce n'est pas le but du jeu aujourd'hui.
D'accord.
Mais oui, on travaille avec une abeille, Apis mellifera, qui a la capacité de vivre en colonie, qui n'est pas une abeille solitaire comme beaucoup d'abeilles sauvages, et qui produit du miel.
D'accord. Alors, on va peut-être faire la pause musicale maintenant. Donc on se retrouve dans quelques minutes. Alors nous nous retrouvons autour de cette table pour parler aujourd'hui des pollinisateurs. Nous avons écouté Jocelyn et Muriel nous parler de la baisse des effectifs de pollinisateurs que l'on ressent au plan national, mais pas que. Ces pollinisateurs, on en connaît l'importance, mais peut-être qu'on peut repréciser le rôle capital de la pollinisation.
Dans la nature, les pollinisateurs, qu'ils soient domestiques ou sauvages, assurent une fonction de reproduction de tout ce qui est végétal. Et pour ce qui est de notre alimentation, il y a une grosse partie de notre alimentation, pas la totalité, mais je crois que c'est un tiers de notre alimentation qui est vraiment qui dépend des pollinisateurs. Donc si on veut manger des choses un peu variées, il est clair qu'il faut admettre que les pollinisateurs ont une fonction importante. Sur le territoire du parc, moi je vois quand on amène des ruches dans un secteur, notamment sur le châtaignier, je pense que les castanéiculteurs sont contents aussi parce qu'ils voient la différence entre des vergers où il y a justement des abeilles et des vergers où il y en a moins. Et la taille des fruits, le nombre des fruits dépend vraiment de la pollinisation assurée par nos abeilles. Donc ici, sur la zone parc, il n'y a pas de zone où des semenciers sont là, où il y a de l'arboriculture, hormis la châtaignerie. Donc nos abeilles sont souvent, on va dire, on loue les services de nos abeilles, notamment les arboriculteurs ou les semenciers qui font, par exemple, de la semence de tournesol ou pour d'autres plantes. Donc louent des ruches pour assurer cette fonction de pollinisation. Donc c'est dire l'importance de nos abeilles domestiques, mais aussi des pollinisateurs sauvages dans la nature.
En effet. On pense au miel, mais pas
voilà,
que.
Voilà, l'abeille produit du miel, c'est sûr. On va dire que la plupart des apiculteurs ont une fonction de production du miel. Mais il y a aussi des apiculteurs qui se sont spécialisés dans la pollinisation. Donc, qui amènent leurs ruches chez les arboriculteurs ou les semenciers. D'accord. Qui ont besoin d'assurer cette fonction de manière, on va dire, sûre.
Alors, on s'est quitté tout à l'heure, avant la pause, sur le volet connaissance de ce qui se met en place sur le territoire au travers des projets. Ce volet connaissance, il a aussi, je crois, il prend aussi la forme de l'accueil d'un étudiant qui va faire une thèse, me semble-t-il.
Oui, il y a un étudiant qui arrive d'ailleurs cet après-midi dans les locaux du parc, qui va faire une thèse pendant 3 ans. Comme toutes les thèses, et qui dépend du laboratoire de l'INRA d'Avignon, qui est l'équipe de pointe qui travaille sur ces questions d'abeilles domestiques et abeilles sauvages. Donc avec cette équipe, on va travailler justement sur la répartition spatiale des ruchers et de voir la compétition qu'il peut y avoir entre ruchers, donc pour l'abeille domestique entre elles, en fonction de la distance de ces ruchers, en lien avec la ressource disponible et en lien aussi avec les pollinisateurs présents, les abeilles sauvages présentes sur ce territoire.
D'accord.
Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir concilier sur le territoire la production de miel, donc l'activité des apiculteurs et la préservation des pollinisateurs sauvages. C'est pour que tout le monde cohabite sur le territoire.
D'accord. Alors ça, c'est l'objectif de ce projet. Donc pour reprendre un petit peu, il y a un volet connaissance dans ce projet. Tiffaine, tu peux nous reparler ou nous compléter ce que tu as pu dire sur les autres aspects du projet, qu'est-ce qui va se mettre en place, hein, qu'est-ce qu'on souhaite mettre en place.
Donc oui, effectivement, là, il y a d'abord, on a parlé du volet connaissance. Après, il y a un volet qui est vraiment les actions qu'on met en place sur le territoire du parc. Et ensuite, je parlerai, si on a le temps, un petit peu de l'envie de créer un label pour avoir vraiment un cahier des charges et pouvoir motiver d'autres territoires à mener aussi ce genre d'initiative. Mais pour parler des actions concrètes, donc ça se passe sur le territoire du parc, mais on travaille avec d'autres acteurs, donc directement sur le terrain avec les apiculteurs, avec l'ensemble de la profession agricole, avec les forestiers, les collectivités territoriales également. Et ensuite, en partenaire, on travaille avec l'ADA Occitanie, qui est l'association de développement apicole au niveau régional. L'ITS, pour le projet de recherche là, dont parlait Jocelyn, il y a l'ITSAP et l'INRA d'Avignon. Donc, l'ITSAP, c'est l'Institut technique et scientifique de l'abeille et de la pollinisation, il me semble. Et pour la partie plus d'impulsion de la création d'un label, ça ne serait pas à nous de le créer, mais nous, on voudrait être à l'initiative de la création de ce label de reconnaissance, ça serait avec l'Agence française de la biodiversité.
D'accord.
Et donc, tu voulais que je revienne sur
les actions, pour qu'on comprenne bien.
c'est assez intéressant, ouais. Donc, j'ai parlé d'augmenter la ressource disponible pour les abeilles domestiques et sauvages.
Et ça, par exemple, ça peut prendre quelle forme ?
Là, ça prendra la forme d'appel à projet. Donc, c'est-à-dire que nous, on cherche des financements pour les projets. Mais ensuite, on va avec ça pouvoir rédiger des appels à projet. Il y a des personnes, donc agriculteurs, forestiers, etc., qui vont répondre à cet appel à projet. Et on va travailler ensemble sur des projets de plantation, de haies ou de cultures. Enfin, ça peut prendre diverses formes, du moment que c'est des ressources qui nous intéressent pour le côté, enfin, dans le cadre de ce projet, pour le côté nectarifère et pollinifère. Et donc, nous, on va financer les plantations.
C'est des professionnels donc qui vont répondre à cet appel à projet. C'est pas pour les particuliers là ce qui se met en place.
Alors l'appel à candidature, il est pas rédigé encore, donc je peux pas voilà, il y a pas de choses très précises, mais je pense que ça sera les professionnels.
Donc des plantations.
Oui, ça va toucher aussi bien les forestiers, les collectivités sur leurs espaces verts, les agriculteurs, les apiculteurs, donc qui font partie des agriculteurs. Le fait qu'on finance, nous, les plantations, ça permet de cibler de manière prioritaire la marque végétale locale, qui est une marque qui est portée par l'Agence française de la biodiversité, qui a été créée à l'initiative des conservateurs botaniques nationaux. Et l'idée, c'est de favoriser des végétaux qui sont produits localement à partir de ce qui pousse naturellement dans la région d'origine.
D'accord.
Et voilà, d'avoir une traçabilité sur ce qu'on plante.
D'accord. Et on va trouver ces plants ou ces avec cette marque, on en trouve sur le territoire du parc.
Oui, alors c'est une marque qui est très récente. Je crois que ça date de 2015. Donc ça se développe tout juste. Donc on est content de pouvoir soutenir cette initiative. Et donc il y a des pépiniéristes qui se lancent par essence et ça augmente chaque année le nombre d'essences qui sont produites et marquées végétales locales.
D'accord.
Après, un autre volet d'action important, c'est plus sur favoriser les pratiques de l'ensemble de ces acteurs. Donc, je répète, agriculteurs, forestiers, aussi s'intéresser aux pratiques apicoles en général et aussi également aux employés communaux sur leurs pratiques sur les espaces verts. Donc on projette de faire des formations à destination de ces différents publics. Je peux peut-être développer un petit peu sur les formations côté apicole.
Oui, donner un ou deux exemples.
Ouais, exemples de comment adapter les pratiques au monde de demain, aux nouvelles évolutions, aux problématiques qu'on peut rencontrer, voir des pratiques apicoles durables et maintenir aussi ce qui se fait et qui est vertueux et déjà durable. Et ensuite, il y aurait dans ces formations apicoles des choses plus sur le côté sanitaire. Comment faire de la lutte biologique contre le varroa, comment appréhender le problème du frelon asiatique. Et voilà, là je reste dans le général, on n'a pas encore toute la liste de formations. Puis ce n'est pas nous qui allons le décider au niveau du parc, mais ça va être forcément des échanges avec le monde apicole et avec ce qui ressort des attentes de chacun. Et on aimerait beaucoup travailler aussi sur l'autonomie génétique au niveau de notre territoire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'élevages d'essaims et d'élevages de rennes qui sont faits sur d'autres régions, voire d'autres pays. Et donc, au niveau des Cévennes, on a beaucoup d'importations, par exemple de rennes ou d'essaims qui viennent d'Italie, d'Espagne ou d'Angleterre. Donc, c'est intéressant, mais par contre, on favorise pas de cette manière des espèces qui soient adaptées localement. Et donc, l'idée, c'est de développer ces élevages sur notre territoire.
Ce sont des choses qui intéressent les apiculteurs. Par exemple, la
oui, alors on n'a pas élevages de on n'a pas attendu que le parc s'empare de la problématique, mais c'est très bien qu'elle soit abordée aussi dans ce dossier-là. Mais voilà, il existe déjà un groupe d'éleveurs qui travaillent sur dont certains font partie de la zone Cévennes, pas la plupart, mais pas mal quand même. Et qui travaillent à cette autonomie en termes génétiques, puisque c'est quand même fâcheux de dépendre d'éleveurs extérieurs, puis c'est quand même fâcheux d'avoir des abeilles dans nos ruches qui ont du mal à s'adapter, pour certaines, pas toutes, mais c'est vrai qu'on a eu cette problématique-là. Et d'être autonome et ne pas être dépendant d'éleveurs extérieurs, c'est aussi un souhait qu'on partage avec un groupe qui s'appelle le CETA Apidoc, voilà, pour nommer le nom du groupe qui travaille là-dessus. Donc voilà, être autonome en termes génétiques et favoriser une abeille adaptée à son territoire, c'est on va dire ce qui nous anime dans ce travail-là. Avec un travail collectif, puisque ce que je trouve intéressant aussi dans le projet du parc, c'est d'amener les apiculteurs à travailler ensemble, ce qui n'est pas trop une habitude dans la profession. Il y a certains apiculteurs qui ont déjà pris ce réflexe-là, mais pas tous, et c'est peut-être aussi l'occasion d'apprendre à travailler collectivement.
Donc là, les apiculteurs qui vont rejoindre le projet... on ne sait pas encore. Il va y avoir un appel à rejoindre le projet plus global, ou comment ça va se créer, cette émulation, cette dynamique, ce collectif?
On va voir. L'avenir nous le dira.
Oui, c'est déjà. Muriel l'expliquait à la base. C'était une attente qui vient en partie du monde apicole. Donc après, nous, on s'est emparé de ça parce qu'on a aussi des enjeux biodiversité. Et voilà. Enfin, on partage une grande partie des enjeux et l'idée, c'est de travailler avec tous ceux qui en ont envie.
Il faut voir si les apiculteurs sont intéressés et se saisissent de cette opportunité-là. Moi, pour moi, c'est une opportunité et j'espère qu'on sera nombreux à la saisir.
Bon, et donc ça, c'est quelque chose qu'on va voir émerger, se consolider dans les mois qui viennent.
Oui,
il faut que ça se fasse là dans les mois qui viennent, quoi, parce que. Quelque chose qui est censé attendre des années avant de se mettre en place, quoi.
Ah bah là, c'est déjà en train de se mettre en place.
Voilà.
Donc, depuis mai, on planche vraiment sur le sujet. Les premières actions, elles vont avoir lieu début 2020.
Voilà. Donc rendez-vous dans quelques mois pour en parler plus concrètement.
Donc, pour agir.
Pour agir, oui. Pour raconter qu'est-ce qui se passe vraiment.
Ok.
S'il n'y a pas de regrets autour de la table?
Non.
On se quitte aujourd'hui. Merci à mes invités. Merci à vous tous et à bientôt.
C'est la fin de Séquence Parc. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur le site www.radiobartas.net.